Chapitre 34. Certains ont une double vie d'espion international, de donjon nocturne ou de vengeur masqué. Moi, la nuit, en secret, j'empile des pommes et des courgettes. Pas certain de passer à la postérité pour ça. Dans mon bureau, où j'ai pris soin de décrocher tout ce qui célébrait ma pseudo-gloire, j'achève une réunion de crise avec les ingénieurs. Alors que je suis supposé endosser le rôle du général motivant ses troupes, j'ai du mal à seulement me tenir droit, tant mon dos est cassé par les centaines de kilos de primeurs manipulés quelques heures plus tôt. Désormais, j'appartiens au club très fermé de ceux qui savent tout de la véritable nature des pastèques. C'est en connaissance de cause que je leur voue à présent, moi aussi, une haine farouche. Dans nos locaux, les travaux de réaménagement se déroulent en ce moment même. J'ai rassemblé les développeurs pour les informer des changements à venir et des tensions qui ne manqueront pas d'en découler. Je compte donc sur vous. Ne changez rien à votre comportement. Concentrez-vous uniquement sur votre travail. Ne vous mettez pas à détester vos collègues commerciaux par principe, ce serait stupide. Nous avons besoin de ceux qui font leur travail correctement, autant qu'eux ont besoin de nous. Ce n'est pas une question de poste, mais de mentalité. Gérez ça au cas par cas. Au moindre problème, n'hésitez pas à venir m'en rendre compte. Sourire et hochement de tête convaincu. Le message passe. Avez-vous des questions? Tout semble clair pour tout le monde. Je conclus donc. Bon courage et bonne journée à tous. Vous savez où me trouver. L'équipe se lève pour quitter mon bureau. Aurore, s'il vous plaît, pouvez-vous rester une minute? Elle obtempère, sous le regard à la fois ironique et gentiment complice de ses collègues. Le dernier à sortir demande « Je ferme la porte ?» Je réplique « Lucas, vous imaginez vraiment qu'on va se rouler par terre en s'arrachant nos vêtements ? Laissez ouvert, s'il vous plaît. » Ça rigole jusque dans le couloir. Aurore secoue la tête, dépitée. « Vous ne devriez pas prendre les racontars à la légère ?» Quand on connaît la nature humaine... Vous avez raison, je vous prie de m'excuser. La nature humaine, comme vous dites. Mais pourquoi le pire imposerait-il toujours sa loi? Pourquoi faudrait-il systématiquement que les idées les plus vulgaires fixent la norme? Dès demain, si cela vous convient, j'annoncerai publiquement que je suis gay et nous pourrons ainsi rester des heures enfermés sans que cela pose problème. Adrien, franchement... Ah, je préfère décidément quand vous m'appelez par mon prénom. Je l'invite à prendre place face à mon bureau. Je souhaitais faire un point avec vous, d'abord sur l'avancement de votre projet. Où en êtes-vous? J'ai terminé la modélisation de ce qui conditionne la résistance d'un couple humain. Fichtre, l'entendre énoncer aussi cliniquement est assez perturbant. Travailler dessus également. Ramener l'aspect sentimental à des critères purement techniques est très déstabilisant. Combien de paramètres obtenez-vous? 9. Je pense qu'il n'en manque pas, mais je n'ai pas tout à fait fini de confronter le modèle à l'échantillonnage. J'ai hâte de découvrir le fruit de vos recherches. Je vais certainement apprendre des choses sur l'existence. Si vous le permettez, j'aimerais bénéficier d'une ou deux semaines supplémentaires avant de vous présenter l'ébauche. Je veux m'assurer que tout est cohérent. Comment validez-vous votre référentiel? Au tout début, j'ai commencé par l'appliquer aux cas de divorce dont j'ai pu être témoin. Il y en a tant que ça? Trop. Mais je n'étais pas certaine de parvenir à définir avec précision les raisons qui ont conduit les unions à se briser. Ce n'est pas parce que vous vivez au plus près de couples qui divorcent que vous pouvez dégager une vérité objective sur ce qui les y a menés. Amis ou famille ne vous disent pas tout, et nous n'avons d'ailleurs rien à savoir de leur vie privée. Alors, comment vous y êtes-vous prise? J'ai décidé de me baser sur un nombre de données bien plus grand, et à défaut d'avoir une vérité absolue, j'ai une mesure. Vous m'intriguez. J'ai obtenu l'accès aux archives des jugements de divorce dans notre département, mais aussi à celle des conciliations sur les 5 dernières années. De quel échantillonnage parle-t-on? Près de 4000 cas par an. Presque 20 000 au total. J'ai d'abord dû appréhender le contenu pour le classer statistiquement. C'est à cela que je consacrais mon temps lorsque j'arrivais si tôt le matin. Il m'a fallu générer ma propre grille de lecture, traquer le factuel au-delà du seul verdict. Un travail de fourmi, mais une phase indispensable pour n'oublier aucune des variables de séparation possibles. Car c'est à partir des effets que je suis remonté aux causes. Je suis très impressionné. C'est absolument passionnant. D'autant que, paradoxalement, cette problématique fondamentale n'a jusque-là été approchée qu'en sociologie, et encore sans véritable rigueur scientifique. J'espère obtenir une cartographie exhaustive de ce qui fissure l'intimité des couples. Je souhaite en livrer une vision dépassionnée qui permette d'en analyser les mécanismes. Une étude sismique de ce qui peut effondrer le temple de l'amour. Je suis client, même à titre personnel. En analysant tous ces cas, j'ai déjà pris conscience d'un point essentiel. La mécanique de rupture semble universelle. Elle dépasse toute forme de classification sociale. Riches ou pauvres se déchirent pour les mêmes raisons. Les conséquences et la façon de la gérer sont liées aux revenus et aux situations fiscales, mais il est clair que les motifs de rupture se jouent des catégories socioprofessionnelles. Remarquable. Entre nous, je me suis souvent dit que nous étions plus égaux vis-à-vis du malheur que du bonheur. Si vous le désirez, je peux vous rédiger un aperçu préliminaire de l'avancement de mon travail. Ne vous ajoutez pas cette pression-là. Étayez votre étude à votre rythme. Pensant notre point terminé, Aurore se lève déjà. « S'il vous plaît, lui dis-je, je vous demande encore un instant. J'aimerais aborder un point plus personnel. » Elle se rassoit, immédiatement mal à l'aise. C'est le grand retour du lapin qui voit planer l'aigle. Je la sens prête à détaler. Elle ne sera bientôt plus qu'un pompon immaculé bondissant au loin dans la prairie. « Détendez-vous, Aurore. Aucune ambiguïté. De toute façon, je vous rappelle que dès demain, vers 11h45, je suis gay. » Cela ne paraît pas la tranquilliser. J'explique quand même. « J'aimerais vous confier une mission personnelle et confidentielle. » « Pourquoi moi ?» Je suis désarçonné. Je ne m'attendais pas du tout à cette réaction. Réfléchissons. « Pourquoi à vous ? Voyons voir. Parce que j'apprécie votre approche intellectuelle. Parce que j'ai confiance en vous. Mais surtout parce qu'une personne qui danse sans se contrôler quand elle est heureuse ne peut pas être totalement mauvaise. Êtes-vous conscient que vos arguments reposent uniquement sur des ressentis subjectifs capables de vous égarer ? Je ne l'aurais pas mieux énoncé moi-même. Magnifique rationalité étayée par deux grands yeux noisettes très convaincus. Possible ? Mais alors, opposez-moi un seul argument objectif qui justifierait que vos pieds ne vous obéissent pas. À voir sa tête, je marque un point. Elle va jusqu'à jeter un regard interrogateur à ses pieds. S'ils lui répondent, c'est moi qui détale. « Quelle est la mission que vous voulez me confier ? » demande-t-elle en relevant les yeux vers moi. « Concrètement, je souhaite que vous réfléchissiez au-delà de votre poste, comme si vous étiez en charge de la bonne marche de cette entreprise. Soyez à l'écoute. Prenez de la hauteur en utilisant votre instinct. Quel dossier de développement feriez-vous avancer ? Sur qui pensez-vous pouvoir vous appuyer ? Que décideriez-vous à ma place ? » Elle écarquille les yeux, incrédule. Je ne lui laisse pas le temps d'objecter. Ce que je m'apprête à vous révéler doit absolument rester secret. Je songe à prendre un peu de recul par rapport à ma fonction. Je compte me placer en retrait et j'envisage de vous confier davantage de responsabilités. Cette fois, c'est sûr, Aurore va se planquer sous un meuble. Du recul ? Me confier des responsabilités ? Bravo. Vous avez saisi l'essentiel. Je me soulève légèrement de mon siège pour vérifier si ses pieds dansent. Il reste immobile. Vos petons m'informent que cela ne vous emballe pas. Mettez-vous à ma place. Je ne suis là que depuis quelques mois. Je n'ai aucune formation de management et je ne connais même pas la moitié des projets. Raison de plus pour ne pas perdre de temps. Il y en a ici qui attendent de prendre du galon. Pour ma part, je veux simplement mener mon travail à bien. Je sais, mais ce n'est pas l'ambition qui m'intéresse, c'est l'aptitude. Je suis convaincu que vous l'avez. » Elle hésite. « Je suis touché que vous ayez pensé à moi, mais vous me surestimez. Je commence à vous connaître. Nous sommes issus de la même formation. Vos notes étaient, soit dit en passant, supérieures aux miennes. Essayez de réfléchir à la configuration que je vous propose en retirant la peur de l'équation. Je suis prêt à parier qu'une fois passées les limites que vous vous fixez, vous serez parfaitement à la hauteur. » Parier ? Pour un expert en statistique, n'est-ce pas un peu contre nature ? Elle ne laisse rien passer. J'aime ça. Elle m'oblige à réfléchir vite. Je ne vais pas essayer de lui démontrer quoi que ce soit, mais j'ai peut-être une chance de la convaincre. Je pourrais tenter de lister les caractéristiques qui vous désignent comme la bonne personne, mais mon choix ne se place pas sur ce registre-là. Pour être complètement honnête, je n'envisage personne d'autre que vous. C'est mon instinct qui vous a choisi. Ce n'est pas une promotion que je vous offre. C'est un service que je vous demande. Aurore, j'ai besoin de vous.